Chapitre 3. Tout seul, tenant de ses deux mains derrière le dos un petit album relié en toile grise, Antoine gravissait sous les hêtres un chemin caillouteux qui longeait le bois. D'un bond, il enjamba le petit mur écroulé dans la mousse et se trouva sur la lisière ombreuse d'une vaste prairie en pente, récemment fauchée, douce au regard comme un velours. L'ombre bleue et chaude des hêtres, l'ombre plus froide, plus épaisse des sapins s'y allongeaient en grandes taches, et le court gazon ensoleillé brillait entre leurs découpures. Antoine se dirigeait vers sa place ordinaire, un coin herbeux ménagé par la faux entre les noisetiers et les sureaux, au pied d'un vieux sapin dont les racines saillantes formaient des sièges. De là, on dominait toute la prairie, tout le large plateau parsemé des petites maisons grises que reliaient entre elles les lacis des chemins. Et la poudreuse blancheur montant d'une vallée qu'on devinait à peine, et les montagnes, nonchalamment couchées en longues chaînes boisées, puis toutes bleues, puis s'effaçant dans une cendre de lumière. Mais Antoine, surpris, s'arrêtait. Son retrait, si bien caché, avait été découvert par un autre promeneur solitaire, un jeune homme assis sous le sapin, le dos tourné au chemin montant, la tête légèrement penchée sur sa main. « Si je ne savais André Humbert à l'hôpital, je croirais que c'est lui, » se dit Antoine. Et il approcha. « C'est bien lui, c'est toi. Tu es donc sorti de l'hôpital. Et que fais-tu ici ? Ah, mon pauvre garçon, mon pauvre ami !» Une émotion de surprise et de pitié l'étrangla, car à sa main tendue, André Humbert offrait la main gauche. Rien ne dépassait le bord de la manche droite, sinon la ligne blanche d'un pansement. « Oui, j'en suis sorti, comme tu vois, et j'y ai laissé ma main. N'en parlons pas trop. » Antoine s'assit et resta silencieux pendant quelques minutes, gauche et embarrassé, comme un homme l'est presque toujours, en présence d'une infortune sans remède. « La dernière fois que je t'ai vu, dit-il en s'éclaircissant la voix, il n'en était pas question. On te soignait. » « Oui, ils m'ont soigné de leur mieux pendant 4 mois, mais je souffrais trop, et puis le mal gagnait. On a sacrifié la main pour sauver le bras. Il paraît qu'un bras sans main peut encore être utile. Quelle belle vue on a d'ici. Tu venais dessiner ? Je cherchais un sujet d'aquarelle, non pour l'exécuter aujourd'hui, je n'en aurai pas le temps, mais pour avoir le plaisir d'y penser. Le loisir est toujours ce qui me manque. » Puis, regardant son ami, il eut honte de se plaindre et il se tut. « Tu donnes beaucoup de leçons ?» Toutes les leçons bêtes et ennuyeuses, celles où de petites filles dessinent une tasse, une feuille de marronnier. Mon père me cédera le cours professionnel du soir, nous y étions coude à coude, toi et moi, ces derniers hivers, et tu as pu voir que le dessin décoratif n'est pas mon fort. Non, dit André, tu ne t'es jamais extasié sur les délicieuses mièvreries de Haberdis. Je voudrais le donner à ta place, ce cours. « Pourquoi ne le ferais-tu pas ? » s'écria Antoine. « Tu en es 100 fois plus capable que moi. »« Capable et ne pouvoir corriger le lavis d'un élève ? » ?»« Tu t'exerceras à tenir le pinceau de la main gauche. » André Humbert prit le petit album qui gisait sur l'herbe, l'ouvrit. Antoine eut le cœur serré à le voir, du bout de sa manche droite, tenir l'album ouvert sur ses genoux, tandis que la main gauche tirait le crayon de sa gaine. André dessina pendant quelques minutes et son ami, penché sur son épaule, le regardait faire. Ils paraissaient être du même âge, 22 ans environ, et leur taille était la même, mais André, plus mince, le cou long, l'apparence frêle, donnait l'illusion d'être plus grand qu'Antoine. Il avait les cheveux bruns, le teint pâle, quelque chose d'émacié dans les lignes de la bouche et du menton. Les lèvres finement dessinées, frémissantes, faisaient penser à un arc tendu. Toute la sensibilité de la physionomie était là, sur cette bouche mobile, douloureuse. Les yeux tristes, mais plutôt observateurs qu'éloquents, sans cesse attirés par le détail des choses, ne trahissaient que l'infinie curiosité de l'artiste. Tandis qu'Antoine, lui, avait des yeux où passait son âme intempérante, changeant à chaque heure, à peine reconnaissables quand la colère les troublait, limpides et aimables dans les bons jours. Un brusque froncement de sourcils, signe d'une disposition violente, accompagnait toutes ses émotions et rendait son visage sombre parfois comme un nuage d'où va sortir l'éclair. Mais en temps ordinaire, Antoine était un jeune homme correct, l'air distingué, contenu dans ses manières, ne laissant deviner son impatience naturelle que par les mouvements nerveux de ses doigts. « Tu vois, » dit André au bout de quelques minutes, plaçant son dessin de façon à ce que tous deux puissent l'examiner ensemble. « L'idée y est, mais l'exécution ? Où est la belle ligne pure, expressive ? Jamais cette main ne saura tenir le crayon, ni le burin surtout. « Oh, ma main de graveur » murmura-t-il, se détournant à demi. « Pauvre ami !» s'écria Antoine, bouleversé de pitié. « Je n'essaie pas de te dire des paroles consolantes, je n'en sais point. C'est affreux, et c'est insensé. La vie fait des choses insensées, elle gâche, elle mutile elle-même son meilleur ouvrage. » « Tais-toi, » dit André, « tout a un sens. » Il reprit son crayon et ajouta quelques traits au croquis indistinct déjà tracé sur la feuille gris pâle. « Cela aussi a un sens, » fit-il pour détourner l'entretien. « Voilà une branche de hêtre jetée au travers de la page. Peut-être, en m'appliquant, pourrais-je lui donner une allure plus gracieuse. » Antoine pensa aux motifs de décoration fantaisiste, fouillis de lianes et de palmes, envolés d'oiseaux étranges, que la main d'André, rapide et ferme, s'amusait à jeter l'hiver précédent sur tous les bouts de papier qu'elle rencontrait. Il n'avait pas besoin de s'appliquer alors, le pauvre garçon. Ces lianes, ces végétations exotiques, poursuivit André, comme si le même souvenir lui fût venu, c'est encore un genre faux. Faux pour nous, j'entends. Pourquoi ne pas faire de la décoration simple et vraie et en trouver les éléments dans notre nature à nous, dans les lourdes draperies du sapin, dans le hêtre et le tremble, et les ronces et le lierre. Un vol de corbeau est tout aussi intéressant qu'un vol de grue japonaise et plus dramatique. Pour le rendu du mouvement aérien, les Japonais sont nos maîtres, c'est vrai, mais nous pourrions étudier, sortir de la convention. Mais ce côté de l'art ne t'intéresse pas. Tu as des impressions générales que tu aimes à rendre par quelques procédés violents. Je n'oublierai pas la stupéfaction de ton pauvre père quand tu lui montras cette pochade, l'autre hiver, qui était censée représenter un des élèves dessinant sous la lampe électrique. Trois taches superposées, chrome, ton de chair et brun foncé. À 10 pas, l'effet se dégageait, mais ton père était navré. « Je voudrais voir des cendres-terre, » fit Antoine le coude sur ses genoux et le menton dans sa main. « Je voudrais étudier un an ou deux chez un de ces étonnants tachistes, mais autant souhaiter d'aller faire des aquarelles dans la lune. « Pourquoi ?» demanda André. « Parce que j'ai la corde de l'enseignement autour du cou et parce que... » Il s'arrêta. Son ami le pénétrait de quelque subtile influence, car ce qu'il allait dire lui parut tout à coup vulgaire et puéril. « Parce que je ne suis pas libre, » acheva-t-il simplement. « Qui est libre ?» fit André. « Une mouche dans une toile d'araignée est plus libre que nous. L'hérédité à elle seule tisse des millions de fils autour de notre volonté avant même qu'elle se connaisse. Les circonstances nous garrottent d'autres fils imbrisables, et finalement, notre entourage est souvent l'araignée qui se jette sur sa victime pour la sucer jusqu'à extinction de substance. Voilà notre liberté. » Antoine soupira et pencha la tête davantage. « J'entends notre liberté extérieure, » reprit André. « Ah, si nous n'avions que celle-là, si notre vie devait trouver sa mesure dans le plus ou moins de succès visible qu'il lui est permis de réaliser, nous serions en vérité de misérables ébauches. » Antoine ne cherchait pas à suivre le fil de la pensée de son ami. Il se contentait de sentir, comme une femme ou un enfant, le poids de certains mots roulant sur lui avec une avalanche d'impressions pénibles. L'hérédité. Oui, le fils lié avec le père sous le même joug, le fils condamné à tourner dans la même aire étroite où toute sa vie le père a tourné. L'entourage. Quelle forme concrète ce mot prenait dans son esprit et quels souvenirs exaspérants s'y rattachaient. « Une ébauche, notre vie, c'est bien cela, » fit-il au bout d'un moment. « un beau commencement, une idée maîtresse, des lignes qui s'élancent, mais qui n'aboutissent pas, et l'on ne sait plus pourquoi elles ont été tracées. Tant de lignes en moi qui n'ont point de prolongement, qui n'en auront jamais. Tant de choses que j'aurais pu faire et que je ne ferai pas. Mais alors, cette capacité de les faire a donc été mise en moi stupidement, au hasard, comme si un enfant semait des graines le long d'un chemin, sans même savoir dans quel terrain elles tombent. Prenons ton cas. Trop excité par ses propres paroles, il ne vit pas son ami se retirer involontairement comme d'un attouchement douloureux. La nature, poursuivit-il, ou ce pouvoir quelconque qui prétend organiser les choses, t'avait fait artiste, t'avait outillé admirablement. Tu commences le travail, l'ébauche prend forme. Tout à coup, ton outil se brise. Le cerveau reste artiste, mais à quoi bon le cerveau sans la main? C'est une roue qui tourne à vide. « Je te fais souffrir !» s'écria-t-il, remarquant enfin sur le visage de son ami une contraction pénible. « Mais je souffre aussi, vois-tu » « C'est une raison assez égoïste, » dit André, dont les lèvres tremblèrent d'une émotion violemment contenue. « J'en conviens, pardonne-moi, c'est que je n'ai pas une âme à qui m'ouvrir. Toi, j'ai pensé que tu me comprendrais, mon cas ressemble au tien. » Il y a aussi du tragique dans ces dessous, pour qui le sait, bien qu'en apparence, il soit si platement banal. Mais au fond, quelle vie est banale? Chacune n'a-t-elle pas son drame inconnu? Un désir impétueux lui venait de raconter à cet ami ce qu'il n'avait jamais dit à personne. André Humbert semblait fait pour tout comprendre, largement et de haut, comme d'une étape supérieure dans le chemin de la souffrance. « J'ai tort de me plaindre de la vie, » fit-il, se jetant en arrière, les deux mains nouées derrière sa tête, les épaules à côté au sapin. « J'y devrais mordre, comme un affamé mord dans une croûte de pain volée, car ma vie ne m'appartient pas légitimement. »« Que veux-tu dire ?» fit son ami étonné. « Que je devrais être au fond de l'eau depuis 16 ans, à la place de notre enfant qui n'est jamais revenu à la surface. » Oui, ma vie est une chose usurpée, une chose malhonnêtement acquise, volée en un mot. Ma vocation était d'être noyée. L'autre enfant devait vivre et devenir ce que la bienveillante nature aurait voulu. Ses germes à lui se seraient peut-être mieux développés que les miens, fit-il avec amertume. André Humbert ne disait rien, perplexe. Il craignait d'encourager son ami à quelque confession irréfléchie, car la chose dite, c'est l'irréparable. Il se leva. « Viens, dit-il, marchons un peu, tu as besoin de te calmer. »« J'ai besoin de parler, » protesta Antoine, qui suivit son ami néanmoins, par-dessus le petit mur et dans le chemin raboteux sous les hêtres. « J'ai besoin de crier mon exaspération aux quatre vents des cieux. Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Tu as ton épreuve, mais elle ne te harcèle pas d'une voix doucereuse. » Elle ne t'interroge pas sur toutes tes allées et venues, elle ne te fait pas sentir à chaque heure que tu ne saurais, par ton asservissement, expier assez le crime d'exister. André s'arrêta. « Prends garde, » fit-il, mettant la main sur le bras d'Antoine. « Laisse-moi tout te dire, » s'écria celui-ci d'un ton suppliant. « Il me semble être muré dans une espèce de cave, laisse-moi y faire entrer un peu d'air extérieur. » Ils marchaient à présent dans un petit chemin gazonné qui coupait le pied de la prairie et que marquaient de distance en distance deux ou trois beaux ormeaux dont l'ombre, largement épandue, faisait de petites oasis sur l'herbe fauchée. Des traînées de foin gris et parfumé, laissées par le râteau sur les traces du char qui, tout à l'heure, emmenait la fenêtre, grillaient sur le bord du chemin, sous le bon soleil, comme des cassolettes ou pendaient en festons aux basses branches des ormes. « Comme tout cela est sain, ouvert, » fit Antoine. « Quand je me sens devenir tout à fait morbide, je viens ici. Regarde nos deux petites maisons sous leurs frênes. Vu d'ici, est-il rien de plus délicieux ?»« Voilà ton motif d'aquarelle, » dit André. Mais lui secoua la tête. Ce qui rendait si délicieuses les deux petites maisons grises, avec la haute dentelle légère des frênes élancées, c'est qu'elles avaient du bleu pour fond. Dans le Jura, où une pente surmonte une autre pente, les fonds sont verts presque toujours. Ici, le bord du plateau se dérobait, tombait à pic dans une combe profonde et, derrière les frênes, dans les trouées de leurs feuillages, entre leurs troncs, jusqu'aux pieds, on voyait le ciel lointain. Bien haut dans ce bleu exquis, léger, l'arcade transparente des arbres se rejoignait, formant comme le portique merveilleux d'un pays des rêves. Une lumière délicate, où du bleu encore semblait tamisé, enveloppait les deux toits, dont le gris charmant vibrait sous le soleil, et l'ombre d'un bleu velouté tombait comme une draperie sur la muraille blanche. « C'est pourtant là que ma peine habite, » dit Antoine. « Ta peine est en tout cas fort bien logée, » fit André avec quelque ironie. Il sortait d'une école de souffrance corporelle, positive, et des difficultés non moins positives, se rapportant au pain quotidien, l'assaillaient. Les chagrins nuageux, les peines simplement d'âme, le trouvaient, sinon incrédule, du moins assez froid. Il voyait son ami en pleine santé, en pleine activité de corps et d'esprit, pourvu d'une profession, d'un chez-lui. Il avait peine à le croire très malheureux. « Tu es morbide, en effet, je pense, » fit-il, s'asseyant au bord du pré et tendant de nouveau instinctivement la main vers le petit album gris. « Tu devrais voyager pendant les vacances pour te distraire. » Voyager, cela est aisé à dire. Il me faudrait d'abord la permission de ma belle-mère qui fait des scènes de larmes pour une absence de 24 heures. Ensuite, il me faudrait de l'argent. Je n'ai pas un sou. J'en demanderai à mon père, qui le demandera à ma belle-mère, qui me le donnera, l'argent gagné par moi. « Mais c'est absurde, » fit André. « Tu travailles, tu peux être indépendant, en quelque mesure du moins. »« Non, tu ne comprends pas. D'abord, je n'ai pas de position. Je supplée mon père, qui se déchargera peu à peu sur moi de toutes ses classes, si le conseil scolaire me juge capable. Mais mon père est encore le professeur en charge. » C'est lui qui touche tout le traitement. Je suis dans une entière dépendance, non de mon père, cela ne serait rien, mais de ma belle-mère qui tient tous les fils. Autrefois, j'ai livré des batailles rangées pour ma liberté. Je ne le fais plus, je me suis soumis, du moins en apparence, à cause de mon pauvre père, dont la santé est fort chancelante. Mais s'il a le moindre sentiment de justice, fit André, il doit lui-même reconnaître tes droits. « Ah, nous sommes dans une position spéciale, nous n'avons pas de droit. Nous expions. À force de l'entendre répéter, il y a des jours où je suis presque convaincu que mon devoir à moi aussi est d'expier. Je n'avais que 6 ans quand cette chose arriva, je n'y ai pris aucune part volontaire et il faut cependant qu'elle pèse sur toutes les heures de ma vie. » Il s'arrêta, il n'y voyait plus clair. Le problème s'embrouillait comme au plus mauvais moment de ses désespoirs. « Écoute, » fit-il en se penchant vers son ami et lui entourant le cou de son bras. « Aide-moi, montre-moi le vrai et le faux. Mon père a sacrifié une vie pour sauver la mienne, voilà ce que nous avons à expier. Nous étions en séjour au bord d'un lac, lui et moi. Un matin, je me trouvais en bateau, très loin du bord, avec un autre enfant. Le bateau chavira. Mon père entendit nos cris et se jeta à l'eau, quoique fort mauvais nageur. Tout près de la barque, il aperçut un petit vêtement, le saisit et se trouva étreignant un enfant qui n'était pas son fils. Alors, par un coup d'instinct sauvage, il le lâcha et nagea plus loin vers un autre objet qui flottait. Il me ramena au bord avec 1000 peines, n'ayant plus qu'un bras libre. Ensuite, malgré son épuisement, il se jeta de nouveau à l'eau. On le rejoignit avec une barque de sauvetage, on chercha l'autre enfant, mais en vain. Il avait coulé à fond. Quelque vieille ancre submergée ou quelque cordage le retenait peut-être, empêchant son pauvre petit corps de remonter à la surface. On ne le revit jamais. Mon père, qui s'analyse et se torture, prétend que son choix, en cette horrible seconde, ne fut pas tout instinct, qu'une alternative se présenta clairement à sa volonté. Je ne sais. Il eut après cela une fièvre cérébrale dont il faillit mourir, et je crois que les hantises du délire se mêlèrent dans sa mémoire au souvenir de la réalité. Je crois qu'il ne voulut rien, ne choisit rien, que tout fut inconscient dans cet acte. André demeurait saisi. Il fit un retour sur lui-même, et son malheur tout à coup lui parut aisé à supporter parce qu'il était simple. Il se souvint d'une parole qu'il avait entendue prononcer à l'un de ses voisins de salle à l'hôpital. « Il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre celles des hommes. » Il était tombé, lui, entre les mains de Dieu qui avait froissé sa chair, humilié son esprit, et pourtant il les avait senties compatissantes. Entre les mains d'un homme qui cependant était son père, Antoine Jacquier partageait ses remords, sa fièvre, sa souffrance sans paix. Antoine poursuivit. « Tant que dura la maladie de mon père, qu'on soigna dans le petit hôtel où nous étions installés, une jeune dame en noir, une veuve, la mère de l'enfant noyé, s'occupa beaucoup de moi. Quelquefois, elle m'embrassait en m'appelant Victor, et je me souviens que ce nom, lié dans mon esprit avec la scène du bateau, m'inspirait de l'horreur. Je me débattais dans ses bras, et je criais « Non, non !» quand elle me demandait « Ne veux-tu pas être mon petit Victor ?» Depuis lors, elle ne s'est jamais lassée de raviver ce souvenir. C'est son arme contre nous. Dans nos discussions, elle n'a qu'à jeter un regard pathétique vers le portrait de son enfant pour qu'aussitôt mon père cède et m'oblige à céder. Ah, mon pauvre père! Mon pauvre père! Il lui avait tout avoué le jour même où il entra en convalescence et je sais qu'alors, elle se montra presque généreuse. Elle refusa de le croire coupable. Autrement, il lui eût été difficile de l'épouser 10 mois après. Ceci est une parole dure et probablement injuste, dit André. Très probablement, je n'ai jamais pu être juste envers ma belle-mère. Mais dès lors, nous n'avons plus aperçu trace en elle de cette générosité. Elle nous a réduits en esclavage. Avec cela, elle nous aime. Elle entoure mon père d'une sollicitude asphyxiante. Elle mendie de moi des témoignages d'affection que je n'ai jamais pu lui donner. Mais, demanda son ami, comment se fait-il que tu saches ces choses? Mon père m'a tout confessé, comme à elle. Encore une expiation qu'il s'imposait. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais 15 ans, mes révoltes contre le joug de ma belle-mère étaient quotidiennes. Je devais apprendre la nature de ses droits sur nous. Ah, quelle était douce et tranquillisante à contempler la vaste campagne unie sur laquelle glissaient en silence les grandes ombres des nuages. Quel repos dans ces lignes paisiblement ondulées, dans ces combes lointaines, solitaires, pleines d'ombres bleues, faites pour s'y coucher et oublier tout. Oui, reprit Antoine après un long intervalle de silence, il y a la nature, heureusement. Sans mes heures de tête-à-tête avec les arbres, j'aurais causé à mon père de plus grands chagrins. Mais je voudrais les peindre, ces chers arbres. Je voudrais dire en couleur mes entretiens avec eux. Si j'étais seul avec mon père, il me donnerait 2 ans pour aller étudier les procédés aquarellistes. En mon absence, il prendrait un suppléant qu'il paierait. Mais la misérable question matérielle nous arrête. Ma belle-mère assure qu'avec le traitement entier de mon père, nous avons juste de quoi tourner. Je n'en crois rien. Nous vivons trop grassement, nous pourrions nous réduire. Ah, si j'entendais quelque chose au détail du budget. Mais un homme a les bras cassés quand une femme vient lui dire « Sur quel article, mon ami, veux-tu faire de l'économie ?»« Nous avons une table de chanoine, ma belle-mère y tient. » Ah, je me méprise, vois-tu, de te dire ces choses. Mais voilà de quoi ma vie est faite. » Ils se turent de nouveau, les yeux fixés sur 2 grands oiseaux fauves qui décrivaient des cercles, pas très hauts au-dessus des platanes, leurs puissantes ailes immobiles, voguant sur l'air. Le petit peuple des branches feuillées s'émouvait en détresse, les buissons bruissaient et, dans les sapins, à la lisière du pré, on entendait les corbeaux s'entretenir tumultueusement. Sans ces menus incidents qui viennent distraire notre attention et relâcher à propos nos nerfs trop tendus, qu'adviendrait-il de nous? Dis-moi quelque chose, je croyais que tu me donnerais un conseil, toujours suivant du regard la lente giration des 2 éperviers. Un conseil comme cela, tout de suite, je pourrais te conseiller la patience. C'est toujours bon, provisoirement. J'ai honte de me plaindre, exclama Antoine, dont ce mot raviva tout à coup la sympathie. Parle-moi de toi. Mais André Humbert n'y était pas enclin, et son ami dut le questionner avec insistance pour apprendre seulement où il demeurait. J'ai un brave homme de cousin dans cette maisonnette, à l'autre bord du plateau, près du petit mur qui empêche les vaches de tomber dans la groisière. Tu la vois d'ici. » « La maison qu'on appelle, je ne sais pourquoi, la Touffette, » dit Antoine. « Précisément, c'est à la Touffette que j'ai trouvé mon asile de convalescence. Je mourais d'ennui à l'hôpital quand le brave cousin vint me voir, il y a 8 jours, et m'emmena. J'avais besoin de grand air et de solitude, plus que de soins. La sœur lui donna une leçon pour le pansement qu'il exécute chaque soir avec une conscience et une lenteur extraordinaires. » Pauvre ami, s'écria Antoine, qui ne put s'empêcher de rire, car il connaissait le propriétaire de la Touffette et ses manies. Il connaissait aussi sa frugalité. Un régime de pain d'orge, de céré, de pommes de terre, et 2 fois par semaine du bœuf bouilli, c'était tout ce que la Touffette pouvait offrir à un convalescent. Tandis que, sur leur table si abondamment et délicatement servie, auraient bien aisément mis un couvert de plus. « J'en parlerai à ma belle-mère, » pensa-t-il. « Ce qu'il me faut, c'est du temps pour me reconnaître, » reprit André Humbert. « Tout est changé dans ma vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne me retrouve plus. »« As-tu des projets ?» demanda Antoine avec quelque hésitation. « Non, comme graveur, je suis fini. Ma capacité est fort limitée maintenant. »« Écoute, » fit Antoine avec impétuosité, « rends-toi capable, en exerçant ta main gauche, de donner le cours de dessin décoratif, et tu l'auras. Mon père est trop fatigué, moi je n'ai pas les aptitudes qu'il faut. En réalité, tu me rendrais un immense service, ainsi qu'aux élèves qui n'apprendraient rien avec moi. » « Tu es généreux, » dit André. « Merci. »